Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre extraordinaire série. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous arrivons à l'étude numéro 6. Et nous allons étudier tout d'abord, on peut dire 4 points. Oui, nous allons avoir 4 points pour notre 6e étude. Donc, le thème sera de David jusqu'à la captivité de Babylone. Premièrement, la première chose que nous avons remarquée ici, c'est que Dieu a oint pour être roi sur son peuple l'homme qui devait être l'ancêtre de Christ. Les dispensations de la Providence pendant l'époque précédente se rapportent au peuple duquel Dieu doit procéder. Mais maintenant, les Saintes Écritures nous conduisent à considérer les dispensations de Dieu à l'égard de cet homme dont Christ devait descendre, c'est-à-dire David. Dieu jugea bon dans ce temps de le choisir d'une manière remarquable, et cela d'entre les milliers d'Israël, et de mettre sur lui une marque distinctive très honorable en l'oignant pour être roi sur son peuple. C'était Dieu seul qui pouvait le trouver. Il est parlé de la maison de son père comme étant petit en Israël. Il était le plus jeune des fils de son père, et c'était le dernier que Samuel aurait pris pour être élu de Dieu. Antérieurement, Dieu avait distingué d'une manière remarquable les personnes dont Christ devait descendre, comme Seth, Noé, Abraham, Isaac et Jacob. La bénédiction accordée par Jacob à Judas est la dernière circonstance dans laquelle nous voyons Dieu mettre à part la personne dont Christ devait descendre, à moins que nous ne considérions la prééminence de Nahasson dans le désert comme un signe qu'il devait être le chef de la tribu de Juda. Mais il mit à part David et personne d'autre d'une manière très honorable comme étant l'homme dont Christ devait descendre, car il l'a oint, il l'oignit pour être roi de son peuple. Il y avait donc quelque chose de plus dans ceci que dans l'onction de Saül. L'onction de Saül était quelque chose de personnel, mais en envoyant Samuel pour oindre David, il entendait fixer la couronne d'Israël sur la tête et dans sa famille, et cela aussi longtemps que le royaume d'Israël subsisterait. Bien plus encore, il se proposait de fixer dans sa famille la couronne de son Église universelle, de l'Israël spirituel, jusqu'à la fin du monde et durant toute l'éternité. Ce fut là une grande dispensation de Dieu pour l'avancement du règne de la rédemption, alors que le temps de la venue de Christ s'approchait toujours plus. David, en même temps qu'il fut l'ancêtre de Christ, il fut aussi, sous l'Ancien Testament, son plus grand type personnel. Les types de Christ étaient de 3 espèces. les uns légaux, les autres providentiels, les troisièmes personnels. Les sacrifices étaient le plus grand des types légaux. La délivrance d'Égypte fut donc le plus grand des, on peut dire, des providentiels. Et David était le plus grand d'entre les personnels. Aussi Christ est-il souvent appelé David, et cela dans les prophéties de l'Écriture sainte, comme par exemple Ézéchiel, chapitre 34, versets 23 et 24, où il est dit « Je susciterai sur elle un pasteur qui les pètera, savoir mon serviteur David. Il les pètera et lui-même sera leur pasteur. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Et dans beaucoup d'autres passages, il est souvent désigné comme la semence et le fils de David. Comme David était l'aïeul et le grand type de Christ, son sacre solennel à titre de roi sur son peuple, afin que le royaume de son Église fût conservé pour toujours dans sa famille, a pu à quelques égards être considéré comme étant le sacre de Christ lui-même. Christ fut donc, en quelque sorte, oint en lui. C'est pourquoi il est parlé du sacre de Christ et de celui de David dans l'Écriture sainte comme étant d'une seule et même chose. Il est dit « J'ai trouvé mon serviteur, je l'ai oint de ma sainte huile » Psaume, chapitre 89, verset 20. Le trône de David est le même que celui de Christ. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Saint Luc, chapitre 1, verset 32. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment du reste, que du fruit de ses reins, il ferait naître selon la chair le Christ pour le faire asseoir sur son trône. Actes chapitre 2, verset 30. Ainsi Dieu, en établissant le royaume de son Église dans la famille de David, fonda en quelque sorte le royaume de Christ sous cette forme visible qu'il a toujours eue depuis. Il plante donc la racine d'où devait sortir ensuite cette branche juste, le roi éternel de son Église. C'est pourquoi ce roi éternel est appelé le rejeton du tronc d'Isaïe. Mais il sortira, est-il dit, un rejeton du tronc d'Isaïe, et un rejeton croîtra de ses racines. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Voici donc que les jours viennent, dit l'Éternel, que je ferai lever à David un germe juste, qui régnera comme roi, il prospérera et exercera le jugement et la justice sur la terre. Jérémie chapitre 23, verset 5. Et encore, en ces jours-là et en ce temps-là, je ferai germer à David le germe de justice qui exercera le jugement et la justice en la terre. Jérémie chapitre 33, verset 15. Ainsi Christ, dans le Nouveau Testament, est appelé la racine et la postérité de David. Notez die Offenbarung, donc Apocalypse chapitre 22, verset 16. Il est du reste à remarquer que Dieu a fait oindre David après Saül pour régner à sa place. Il enleva donc la couronne à la famille de Saül et à lui-même, qui était le plus grand en stature de tous ceux de son peuple, et qui, à leurs yeux, était évidemment le plus fait, le mieux, pour le commandement, afin de donner à David, qui était de petite taille, et comparativement parlant, il était d'une apparence misérable par rapport à Saül. Ainsi Dieu s'est plu à montrer comment Christ, qui n'avait ni apparence ni beauté extérieure non plus, et qui fut le méprisé et le rejeté des hommes, enlèverait le royaume aux grands de la terre. Remarquons encore que David était le plus jeune des fils de Jessé, que Jacob, aussi le plus jeune, supplanta, rappelez-vous, Ésaü, et lui enleva même le droit d'aînesse et la bénédiction que ensuite Phares, frère de l'aïeux de Christ, supplanta aussi Zara en naissant, et que Isaac, un autre des ancêtres de Christ, chassa son frère aîné Ismaël. Ainsi fut accomplie la parole suivante répétée par Christ, que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'est souvent comme ça avec Dieu. Ce que vous allez entendre maintenant est évidemment difficile à croire, mais c'est 100% vrai. Donc, deuxièmement, il est dit, je ferai encore remarquer comment Dieu préserva la vie de David jusqu'à la mort de Saül par une suite de dispensations miraculeuses de sa providence. J'ai déjà fait remarquer l'admirable préservation d'autres ancêtres de Christ comme Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Et nous avons vu comment leur salut a garanti le succès à l'œuvre de la rédemption et comment, par ce moyen, l'Église entière des rachetés a été préservée d'une ruine complète. La préservation de David, elle ne fut pas moins remarquable que celle d'autres, de tous les autres. Que de fois David se trouvait à un pas de sa ruine, de sa mort. Ainsi, premièrement, quand il a rencontré un lion et un ours qui avaient saisi un agneau de son troupeau et qui, sans une assistance absolument miraculeuse, l'aurait aussi aisément mis en pièces que l'agneau qu'il leur a arraché. Ainsi, voyez-vous, la racine et la prospérité de David fut préservée du lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Elle le vainquit et elle le délivra. Elle délivra les âmes des hommes qui étaient comme tout autant d'agneaux dans la gueule de ce fameux lion. Dans une autre circonstance remarquable, David fut gardé contre le fameux géant Goliath, qui devait être par les 3 mètres de hauteur, qui était assez fort pour le mettre en pièces et même pour donner sa chair à manger aux bêtes des champs et aux oiseaux de l'air, comme il l'a menacé. Mais voyez-vous, Dieu le garda, et Dieu le fit triompher de ce fameux Goliath, si bien qui lui coupa la tête avec sa propre épée, et ainsi délivra Israël. Christ de même tua le Goliath spirituel avec sa propre arme, c'est-à-dire la croix, et délivra ainsi son peuple. Et comme Dieu préserva miraculeusement David de la main de Saül, lorsque celui-ci chercha sa vie pour la première fois, en lui donnant sa fille, assez extraordinaire, pour lui être un piège, exigeant de lui son prépuce des Philistins, ceci afin de mettre ainsi, et on l'a compris, sa vie en danger. Il y a eu aussi une intervention manifeste de la providence de Dieu quand Saül a dit à Jonathan et à tous ses serviteurs de tuer David, et que Jonathan, au lieu de le tuer, comme son père l'avait ordonné, s'attacha à lui pour l'aimer comme son âme, de sorte qu'il fut un instrument de son salut au risque de sa propre vie. Et pourtant, on aurait pensé que personne n'aurait plus que Jonathan, davantage que Jonathan, désiré la mort de David, puisque c'était un prétendant à la couronne. Ensuite, voyez-vous, Saül lui lança une hallebarde pour l'écraser contre la muraille et envoya des messagers à sa demeure pour le veiller et pour le tuer. Et alors Michal, la fille de Saül, l'a descendu par la fenêtre pour qu'il puisse fuir. Plus tard, il envoya par deux fois des messagers à Najoth, en Rama, afin de le prendre. Et ils furent arrêtés dans l'exécution de leur projet par un miraculeux effet de l'Esprit de Dieu. Et quand Saül, bien décidé dans son entreprise, y alla lui-même, eh bien, il se trouva lui aussi parmi les prophètes. Comme la vie de David fut admirablement préservée à Gath, au milieu des Philistins, lorsqu'il alla trouver Achis, le roi de Gath, et qu'il se trouva là au pouvoir des Philistins, qui, tout le monde l'aurait supposé, aurait dû en finir avec celui qui les avait tellement provoqués, rappelez-vous, par la victoire qu'il avait remportée sur eux, contre le fameux Goliath. Il fut aussi miraculeusement préservé à Kehila, après être entré dans cette ville murée, et lorsque Saül se croyait sûr de lui, et comme il échappa aussi miraculeusement à Saül, qui le poursuivait et le pourchassait dans les montagnes, comme Dieu l'a continué de le délivrer d'une manière remarquable dans le désert de Mahon, alors que Saül et son armée l'avaient entouré, comme il fut également délivré dans la caverne de Hen-Guedi, où, au lieu de tuer David, eh bien Saül se trouva livré entre ses mains. Et David avait coupé un pan de sa robe, de la robe de Saül, et lui aurait été tout aussi facile de lui couper la tête, évidemment. Donc il fut sauvé, voyez-vous, de la même manière, dans le désert de Tsip, et plus tard dans le pays des Philistins, bien qu'il les avait vaincus à Kehila. Depuis qu'il avait on peut dire, été parmi eux, on se rappelle. Il semble que cela aurait dû suffisamment les avertir de n'avoir pas de confiance en lui et de ne pas le laisser échapper une seconde fois. Mais, voyez-vous, Dieu changea miraculeusement leur cœur, de sorte qu'au lieu de le tuer, ils l'ont reçu comme un ami et ils l'ont même protégé. C'est ainsi que fut préservée la précieuse semence qui renfermait virtuellement le Rédempteur et toutes les bénédictions de sa rédemption, alors que l'enfer et la terre conspiraient pour la détruire. David remarque souvent la chose avec beaucoup d'actions de grâce et admiration, dans beaucoup d'admiration dans le merveilleux livre des psaumes. Troisièmement, environ vers ce temps-là, la sainte parole de Dieu écrite, ou canon des saintes écritures, fut augmentée par Samuel. J'ai déjà fait remarquer que le canon des saintes écritures remonte même jusqu'à Moïse, et que ce fut alors que l'Église reçut par écrit la première règle de foi et de vie. Il est très probable que Josué l'augmenta et qu'il écrivit le dernier chapitre du Deutéronome et la plus grande partie du livre qui porte son nom. Quelques-uns pensent que c'est ce qui concerne Josué, les juges et Ruth, et une portion du livre de Samuel, ont bel et bien été écrits par Samuel. Quoi qu'il en soit de cela, il est bien prouvé que Samuel a ajouté au canon des Saintes Écritures, car il est parlé de lui, même dans le Nouveau Testament, comme l'un des prophètes dont nous avons les écrits dans la Sainte Bible. Et même tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tout autant qu'il y en a eu qui ont parlé, ont aussi prédit ces jours-là. Actes chapitre 3, verset 24. Par cette expression, tout autant qu'il y en a eu qui ont parlé, il faut entendre par cela qui ont écrit. Samuel parla de ces temps de Christ et de l'Évangile en donnant l'histoire de choses qui les annonçaient en leur servant de type. Ce fut donc particulièrement le cas pour ce qu'il a écrit sur David. L'Esprit de Dieu le porta à écrire toutes ces choses, surtout parce qu'elles annonçaient Christ et le temps de l'Évangile. Et comme nous l'avons déjà dit, ce fut la principale affaire de cette succession de prophètes qui commença avec Samuel. On voit en outre que Samuel ajouta encore au canon des Saintes Écritures par le passage suivant, où il est dit « Or quant au fait du roi David, tant les premiers que les derniers, voilà, ils sont écrits au livre de Samuel, le voyant. » 1 Chronique chapitre 29, verset 29. Que le livre de Josué ait été écrit ou non par Samuel, c'est l'opinion générale des théologiens que les livres des juges et de Ruth et une partie du premier de Samuel l'ont été. Et le livre de Ruth fut donc écrit parce que tout en semblant traiter d'affaires privées, les personnes dont il s'occupe principalement étaient de la famille de laquelle David et Jésus-Christ devaient sortir. Et par là même, il annonçait les jours du Messie, comme l'avait fait l'apôtre Pierre, le remarque du reste de Samuel et des autres prophètes, et ceci dans le troisième chapitre des Actes des Apôtres. Ces additions au canon des Saintes Écritures, le grand et principal moyen pour l'application de la rédemption, doivent donc être considérées comme étant une continuation de l'œuvre, une addition faite au grand édifice. Et quatrièmement, Dieu avance encore, il avança encore son œuvre dans ce temps-là, et ceci en inspirant à David de proclamer Christ et sa rédemption dans des cantiques sacrés devant servir au culte public de l'Église dans tous les âges. David lui-même avait l'esprit de prophétie. Il est du reste appelé prophète, homme frère. Je puis bien vous dire librement, est-il dit, touchant le patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il ferait naître selon la chair le Christ pour le faire asseoir sur son trône. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 29 et 30. De sorte, voyez-vous, qu'il fut ainsi un type de Christ, David, en étant à la fois prophète et roi. L'huile qui servit au sacre de David, cela était un type de l'Esprit-Saint de Dieu, et le type et l'antitype furent donnés à la fois, comme cela est dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13, où il est dit que l'Esprit-Saint de Dieu est vraiment le type et l'antitype. Alors Samuel prit la corne d'huile, est-il dit, et il la oint au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel a saisi David. On a dit 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Il est venu alors sur lui, l'Esprit Saint, avec son influence prophétique, et cet Esprit agit sur lui en l'inspirant pour prédire Christ Jésus et toutes les choses se rapportant à la rédemption glorieuse dans des cantiques sacrés, respirant les élans d'une âme pieuse, vraiment sincère, pleine d'admiration pour le Rédempteur, enflammée, on peut dire, de l'amour divin et se répandant en action de grâce. Aussi est-il désigné comme étant celui qui composa tous les doux cantiques d'Israël. Notez 2 Samuel, chapitre 23, verset 1. Les choses merveilleuses de l'Évangile faisaient le principal sujet de ces chants, comme on le voit très clairement par l'interprétation qui en est donnée dans le Nouveau Testament et par l'usage qu'on en fait, car il n'y a pas de livre de l'Ancien Testament qui soit aussi souvent cité dans le Nouveau que celui des psaumes. Et c'est donc avec joie que ce saint homme a chanté les grandes choses de la rédemption de Jésus-Christ qui avait été l'espérance et qui avait été l'attente de l'Église et du peuple de Dieu dans le commencement. Et ce fut avec bonheur également que d'autres l'ont imité, car le livre des psaumes n'a pas été exclusivement composé par David, bien que la plus grande portion soit de lui. Et par ce moyen-là, le canon s'augmenta d'une excellente partie de l'Écriture sainte. Et ce fut là un grand pas de fait dans la construction de cet édifice et la lumière de l'Évangile qui était graduellement devenue plus vive fut donc très augmentée par ce moyen-là. Car tandis que auparavant, pendant plusieurs siècles, il n'y avait de prophétie sur Jésus-Christ que de temps à autre, eh bien ici, son ancêtre David en parle très souvent dans cette multitude de chants. Il parle de son incarnation, il parle de sa vie, de sa mort, ainsi que de sa résurrection, et encore en plus de son ascension, de sa satisfaction, de son intercession, et on peut dire de son office de prophète, le roi, et de sacrificateur. Donc il était prophète et roi et sacrificateur. Donc on peut dire les glorieux privilèges qui doivent en découler dans cette vie et dans celle qui est à venir, sont donc une union ou en union avec l'Église. C'est la bénédiction qui lui procurera, c'est la vocation des gentils, ça veut dire des non-juifs, c'est la gloire à venir de l'Église vers la fin du monde, et c'est la venue de Christ pour le jugement dernier. Ce sont donc les divers sujets de tous ces chants. David, dans ses psaumes, parle très souvent de ces diverses choses et de beaucoup d'autres ayant rapport uniquement à Jésus-Christ et à sa rédemption. Du reste, ce fut aussi un progrès dans l'œuvre de la rédemption en ce que Dieu a donné à son Église un recueil de chants sacrés pour son usage dans le culte public et pour chanter ses louanges à travers tous les siècles jusqu'à la fin du monde. Il est donc manifeste que c'est dans ce but-là que Dieu a donné le livre des psaumes. On s'en servait dans l'Église d'Israël par l'ordre de Dieu, comme on voit par l'inscription de plusieurs psaumes qui sont adressés au maître chantre choisi pour présider au chant sacré dans le culte public qui se célébrait au temple, dans les synagogues. David est donc appelé l'auteur des doux cantiques d'Israël parce qu'il a composé des psaumes pour l'usage de l'Église israélite. Aussi voyons-nous qu'ils étaient chantés par elle plusieurs siècles même après la mort de David, comme nous le montre 2 Chroniques, chapitre 29, verset 30. Et ensuite, le roi Hézéchias et les principaux dirent aux Lévites qu'ils ont loué l'Éternel suivant les paroles de David et d'Asaph, le fameux voyant. Ils étaient tous les deux voyants et ils ont loué l'Éternel jusqu'à tressaillir de joie et ils se sont inclinés et ils se sont prosternés. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, il est ordonné à l'Église de s'en servir dans son culte. Il est dit, vous entretenant par des psaumes par des cantiques et des chansons spirituelles, chantant et psalmodiant de votre cœur, avec tout votre cœur au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Et ensuite, que la sainte parole de Christ habite en vous, abondamment, est-il dit, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, avec grâce, chantant de votre cœur au Seigneur. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Ils ont donc été employés dans l'Église pour célébrer les louanges de Dieu, et ils le seront jusqu'à la fin du monde. Nous allons terminer cette étude. Déjà avant cela, du reste, le peuple avait coutume de l'adorer en chantant des cantiques à sa louange, comme ils l'ont fait près de la mer Rouge. Le cantique prophétique de Moïse avait été conservé dans ce but-là, dans le 32e chapitre du Deutéronome. Déborah, Barak et Anne ont chanté les louanges de Dieu. Mais ce fut alors pour la première fois que Dieu avait donné à son Église un livre de chants sacré pour son usage permanent. Chers amis, nous continuerons demain, Dieu voulant, avec le cinquième point. Ce sera l'étude numéro 7. Et nous allons terminer par la prière. Et j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un très lointain passé. En ce temps-là, il n'y avait pas de CD. Et j'ai fait cela il y a plus de 50 ans avec un appareil qui s'appelait le Revox. Il y avait également le fameux Nagra de Kudelski. Mais prions maintenant. Seigneur, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel? Ou qui a été son conseiller? Qui l'a instruit et lui a enseigné le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la science et lui a montré le chemin de l'intelligence? Les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau et comme la menue poussière d'une balance. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. À qui donc ferez-vous ressembler le Dieu fort? C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. C'est lui qui étend les cieux comme un pavillon et les a étendus comme une tente pour y habiter. À qui donc me ferez-vous ressembler? Et à qui serai-je égalé, dit le Saint? Élevez donc vos yeux en haut et regardez. Qui a créé toutes ces choses? C'est lui qui conduit leurs armées par ordre et qui les appelle toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à lui obéir à cause de sa grande force et parce qu'il excelle en puissance. Ne sais-tu pas et n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité est l'Éternel qui a créé les bornes de la terre? Il ne se lasse point et il n'y a point de moyen de sonder son intelligence. C'est lui, oui, c'est lui qui donne de la force à celui qui est lassé. C'est lui qui multiplie la vigueur de celui, et j'ajoute de celle qui est affaiblie. Les jeunes gens se lassent, et tombe lourdement. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils vont courir, et ils vont pas se fatiguer. Ils vont point se fatiguer, et ils marcheront, et ne se lasseront point. Tout cela, c'est l'Éternel qui le dit. L'Éternel viendra, et il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras, et il les portera dans son sein. Et nous pouvons tous dire maintenant, béni soit l'Éternel, à toujours. Amen. Et chers amis, vous le savez, Dieu vous aime. Et c'est donc mon devoir de vous aimer intensément, avec tout mon cœur, avec toute mon âme et mon esprit. Et je vous embrasse maintenant tous, vraiment solennellement, avec amour. Et soyez bénis, et n'oubliez pas de prier les uns pour les autres. Très important. Et maintenant, je veux essayer de vous mettre quelques chants de ce très lointain passé où j'ai enregistré avec un appareil à bande qui s'appelait le Revox.
Unspeakable cost, is it worth such a price to be lost, for the joy that will fade shall your soul have betrayed. Have you counted? Have you counted the cost? As the voice of God's Spirit you strive to forget, and his pleadings aside you have tossed. Have you thought when you said there is time enough yet, what it means, what it means to be lost? If you gain all the world, drink from fortune's rich bowl, and in judgment your soul should be lost, then what price can you give in exchange for your soul? How you wish you had counted the cost. Have you counted the cost, the unspeakable cost? Is it worth such a price to be lost? For the joy that will fade shall your soul betrayed. Have you counted? Have you counted the cost? Yeah.